franceinter.fr.
Le journal Claire Servajan. Bonjour Claire.
Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. La France et l'Allemagne tentent de reprendre l'initiative face à la crise des migrants. Paris et Berlin proposent de mettre en place des quotas de réfugiés qui ne disent pas leur nom. Exactement ce que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, avait demandé au printemps dernier. Dans ce journal, on ira en Hongrie, où les migrants ne veulent surtout pas rester. Et on entendra le témoignage d'une jeune Syrienne, une jeune yézidi, qui a passé 3 mois aux mains du groupe État islamique en Syrie. En France, une nouvelle polémique à propos des menus de substitution dans les cantines. Cette fois, c'est à Chilly-Mazarin, dans l'Essonne, où le maire, Les Républicains, a décidé de supprimer ces menus sans porc. Les parents l'ont appris à la rentrée seulement. À la une de l'actualité également, le groupe Air France, en proie à de nouvelles tensions sociales. La direction menace de supprimer une partie des longs courriers s'il n'y a pas d'accord avec les syndicats. Et puis, retour chez les ex-fralib de Gemnos dans ce journal. On ira voir comment ces salariés qui ont monté leur scope travaillent désormais. Et on s'arrêtera justement sur ce modèle économique et social que sont les scopes. Pour en parler, on accueillera Patricia L'Excellent, qui est déléguée générale de la Confédération Générale des Scopes. Elle sera l'invitée de ce journal. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Plutôt frais dans l'ensemble, Élodie.
Oui, seulement 16 degrés du côté de Saint-Brieuc ou Deauville, 17 à Lille et à Brest, 19 à Paris, 21 degrés à Strasbourg, Toulouse et Biarritz, 23 degrés pour Lyon et Grenoble. Ça reste plus estival dans le sud-est tout de même, 25 degrés à Montpellier, 28 degrés pour Toulon. Côté ciel, entre la Bretagne, les Charentes, le Nord et la Lorraine, des nuages, quelques éclaircies, parfois même quelques averses entre la Normandie, le Nord des Pays de la Loire, la région parisienne, l'Orléanais jusqu'à la frontière belge. Sur les Pyrénées, c'est la même chose avec un coup de tonnerre en prime dans l'après-midi. De l'Aquitaine vers le Massif central et les régions de l'Est, là le soleil l'emporte. En Méditerranée, un soleil parfois voilé cet après-midi, du vent, et puis c'est plus nuageux sur la Corse avec quelques averses orageuses en montagne. Pour le week-end, ça va s'améliorer, ça restera frais, mais vous aurez plus de soleil pour dimanche.
France Inter.
Le petit Elan, dont la photo a fait le tour du monde, a été inhumé à Kobané. Il a été enterré avec son frère et sa mère. L'enterrement vient tout juste d'avoir lieu, c'est ce qu'indique l'agence France Presse. Le père, seul rescapé du naufrage qui a décimé cette famille syrienne, était arrivé ce matin sur place dans cette ville du nord de la Syrie. « Je n'ai plus rien à attendre de ce monde », a dit le père du petit garçon, en disant simplement espérer que le monde prenne désormais conscience du drame des migrants. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. En tout cas, il aura fallu cette photo du petit garçon à la une de la presse européenne pour que la France et l'Allemagne montent au créneau sur la question des migrants. Hier après-midi, François Hollande et Angela Merkel ont lancé un appel pour organiser l'accueil des réfugiés en Europe avec une répartition équitable. Ce sont les termes employés. À ce stade, on ne parle pas de quotas, ça reste un mot tabou. Cet après-midi, réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Luxembourg avec bien évidemment le dossier des migrants à la une. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Claire, bonjour à toutes.
Vous êtes sur place pour France Inter. Quentin, l'initiative Hollande-Merkel ressemble, on va le dire, furieusement à ce que Jean-Claude Juncker avait souhaité mettre en place au printemps dernier. Mais on se souvient qu'à l'époque, il s'était heurté, on va dire, à un mur.
Oui, c'est cela. L'idée, c'est un mécanisme de régulation des demandes d'asile qui serait à la fois identique, commun et obligatoire pour l'ensemble des pays membres de l'UE. Sa première caractéristique viserait les critères d'octroi du statut de réfugié, tout en maintenant un examen individuel au cas par cas. Une liste serait dressée des pays réputés sûrs pour les ressortissants desquels, sauf situation particulière, ce statut serait systématiquement refusé. Le deuxième volet rendrait automatique l'enregistrement de l'identité et la prise des empreintes digitales de chaque migrant dès son arrivée en Europe, afin notamment d'identifier immédiatement ceux qui n'ont aucune chance de voir aboutir favorablement leur demande. Troisièmement, vous en parliez, la répartition des candidats réfugiés dans l'attente de la décision qui sera prise à leur égard, laquelle devra être accélérée, se fera en fonction des possibilités déclarées préalablement par chacun des 28 pays membres de l'UE, sans que ceux-ci puissent ensuite s'opposer à l'affectation chez eux de migrants, dans la mesure où des places en hébergement seraient encore vacantes. Enfin, le renvoi dans le pays d'origine des personnes dont le dossier serait rejeté devra être organisé à grande échelle par l'agence Frontex et s'effectuer de façon beaucoup plus rapide qu'actuellement. En clair, vous avez raison, ce dispositif ressemble assez bien au projet présenté cet été et mal reçu alors par Jean-Claude Juncker, qui bénéficie désormais de l'engagement en ce sens du couple franco-allemand avant la réunion cruciale des ministres de l'Intérieur qui se tiendra à Bruxelles le 14 septembre.
Voilà, et aujourd'hui, Quentin, en attendant, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères, mais à noter que certains pays de l'Est de l'Europe feront bande à part cet après-midi, ils ne seront pas là.
Oui, c'est une situation un peu surréaliste, en effet. Pendant qu'ici, à Luxembourg, les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne cherchent à trouver une position commune, cohérente et fondée sur une approche humanitaire et solidaire face à la détresse des migrants, en particulier syriens, eh bien, à 730 kilomètres d'ici, au château de Prague, que connaissait bien Kafka, les dirigeants de 5 pays d'Europe centrale et orientale, pourtant membres de l'UE, sont réunis pour voir comment ils pourraient freiner, voire supprimer, toute arrivée de migrants sur leur territoire. Cette approche se heurte cependant aux divergences importantes entre participants. La Pologne, par exemple, n'a pas la même position que la Slovaquie ou la Hongrie, pays bien plus petit, mais aussi à l'obstacle matériel majeur. Aucune mesure prise à ce jour par certains de ces pays, qu'il s'agisse de kilomètres de barbelés, de gaz lacrymogènes, de trains bloqués en rase campagne ou autres, aucune mesure n'a permis d'enrayer, ne fût-ce qu'une heure, l'afflux de migrants.
Effectivement, et on ira tout à l'heure en Hongrie. Merci beaucoup, Quentin Dickinson, en direct de Luxembourg pour France Inter. La France, donc, est prête à accueillir une partie de la misère du monde. Sans utiliser le mot quota, le chef de l'État prône désormais un mécanisme permanent et obligatoire d'accueil des réfugiés en Europe. À l'Élysée, on reconnaît que les choses ont évolué depuis le printemps dernier. Il suffit, Laurence Perron, de réécouter ce que l'exécutif disait à l'époque pour voir qu'effectivement, le discours n'est plus tout à fait le même.
Alors, vous remarquerez toutefois que le président ne se dédie pas en parole, hein, tout du moins. Il n'a pas prononcé le mot quota, mais mécanisme permanent et obligatoire, ce qui revient au même. Et c'est précisément ce contre quoi il s'insurgeait à Berlin le 19 mai dernier.
Il n'est pas question qu'il y ait des quotas d'immigrants.
Il faisait valoir que nous avions déjà un mécanisme de régulation qui s'appelle le droit d'asile et appelait en revanche à ce que chaque pays en prenne sa part, une répartition équitable des réfugiés, équitable mais pas contraignante. Le Premier ministre Manuel Valls, en déplacement à Menton deux jours plus tôt, ne dit pas autre chose.
Je suis contre l'instauration de quotas de migrants. Ceci n'a jamais correspondu aux propositions françaises.
Un mois plus tôt, le 19 avril, un naufrage au large des côtes italiennes. 700 personnes fuyant la Libye trouvent la mort en Méditerranée. La Commission européenne prône donc des quotas. La France répond « lutte contre les trafiquants », les passeurs que le président qualifie de terroristes. Hollande qui en profite aussi pour rappeler que la guerre de Nicolas Sarkozy en Libye a été un échec et qu'il se paye ainsi. Alors hier, au sein du gouvernement, un ministre affichait une mine ravie. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui lâchait d'ailleurs en juin dernier.
On est quand même fondé à les accueillir, ces trucs. Il faut quand même qu'on montre aussi quelle est la différence entre la politique et celle de la droite.
Voilà, la différence entre la politique de la gauche et la politique de la droite s'appelle humanité, dit-on place Beauvau, où l'on concède qu'il y a toujours eu du patouillis autour du mot quota.
Merci Laurence Perron. L'opposition, elle, fustige ce qu'elle appelle la volte-face de François Hollande, pour reprendre les termes du parti Les Républicains, du communiqué officiel du parti Les Républicains, un parti qui reste par ailleurs passablement divisé lui-même, notamment sur le fait de savoir s'il faut ou non envoyer des troupes au sol en Syrie pour combattre le groupe État islamique. C'est ce que souhaite notamment Bruno Le Maire. Ceux qui proposent ça n'ont pas réfléchi, dit François Fillon, qui ajoute à propos des quotas, c'est une question technique. Direction la Hongrie. À présent, la Hongrie dont le Premier ministre Viktor Orban estime que l'afflux de migrants menace les racines chrétiennes de l'Europe. C'est ce qu'il est allé dire hier à Bruxelles. La Hongrie, deuxième pays d'entrée dans l'Union européenne après la Grèce. La Hongrie où les migrants ne veulent rester pour rien au monde. Mais pour eux, c'est parfois difficile de partir. Reportage de notre envoyé spécial à Budapest, Olivier Poujade.
Amar essaie d'acheter des tickets de métro pour sortir de la gare et rejoindre sa famille. Il semble un peu perdu comme n'importe quel touriste essayant de déchiffrer les mots inscrits sur l'écran en hongrois. Ses habits sont propres, pourtant, comme la plupart des personnes dans la gare, Amar est réfugié. Une seule question sur le passage de la frontière sud de la Hongrie et la réponse fait toute la différence.
Je ne peux même pas vous dire combien on a souffert là-bas. Ils nous ont mis dans un camp. Ils nous ont traités comme des moutons. En fait, on s'est livrés à eux. Nous n'avons rien dit. Ils nous ont mis en prison. Ils nous ont enfermés. Et après avoir pris nos empreintes, ils nous ont envoyés à Budapest. On est venu ici. On a acheté des billets. Et je n'ai jamais vu un train. Ça me désespère. Je dois trouver une solution.
Avant de s'éloigner, Amar rappelle qu'il vient d'un pays en guerre, mais qu'il n'avait jamais dormi à même le sol, dans la rue, un sort réservé à des milliers de réfugiés éparpillés dans la ville. Budapest, Gilles Gallinaro, Olivier Poujade, France Inter.
Un reportage à retrouver en images également sur franceinter.fr. Un témoignage à présent pour rappeler les raisons pour lesquelles de nombreuses personnes fuient la Syrie et l'Irak en guerre. Ce témoignage, c'est celui de Jinan, une jeune femme de 19 ans de la communauté yézidi. L'an dernier, elle a été capturée par le groupe État islamique. Elle est restée prisonnière pendant 3 mois avant de réussir à s'enfuir. Aujourd'hui, elle témoigne dans un livre intitulé « Esclave de Daesh » publié chez Fayard, sous la houlette de notre confrère du Figaro, Thierry Oberlé. Jinan, qui est de passage à Paris à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, s'est confiée à Géraldine Allou.
Le 3 août 2014, nous avons quitté précipitamment notre village parce que Daesh nous attaquait. Nous nous sommes réfugiés dans la montagne pendant une nuit. Le lendemain, on nous a dit que les Kurdes du PKK avaient rouvert la route et qu'on pouvait redescendre en sécurité. Alors nous sommes redescendus et nous avons pris la route vers la Syrie. Mais 4 pick-up avec des combattants de Daesh nous ont arrêtés et encerclés. Ils ont tiré en l'air pour stopper notre convoi. Toutes nos voitures se sont arrêtées d'un coup. J'ai été ballottée de ville en ville avant d'être emmenée dans une maison dans le village de Rambousi, près de Sinjar. Pendant 3 mois, j'ai été torturée et frappée par ces hommes. On était enchaînés avec les autres filles en plein soleil. Ils nous forçaient à boire de l'eau dans laquelle baignaient des souris mortes pour nous obliger à nous convertir. Nous étions leurs esclaves, obligés de cuisiner et de laver les vêtements pour 30 personnes. Ils nous harcelaient pour qu'on se convertisse à l'islam.
Ces hommes dont vous parlez, ils vous ont acheté pour une poignée de dollars?
10 000 dinars irakiens, ça fait 7 dollars. Après 2 mois de torture, on refusait toujours de se convertir à l'islam. Alors ils ont emmené un générateur et nous ont dit qu'ils allaient nous brancher dessus pour faire passer de l'électricité dans notre corps. On avait tellement peur. On a cédé et on s'est converti.
Certaines femmes aussi ont servi d'esclaves sexuels.
Oui, ils ont violé beaucoup de filles yézidis. Ils se servaient parmi nous. Ils étaient terribles. Ils faisaient leur marché. Les filles aux yeux clairs étaient les plus menacées. Les filles plus âgées pouvaient y échapper. Ils disaient que les yézidis ne devaient pas exister. Ils nous détestaient.
Comment vous avez réussi à vous enfuir?
Un soir, ils sont revenus du combat. Ils étaient très fatigués. Alors ils ont dîné et sont allés directement dormir. Vers minuit, on s'est dit qu'ils devaient dormir profondément. Alors nous avons sauté par la fenêtre, toutes les 6. On était pieds nus pour ne pas faire de bruit. On avait volé un de leurs portables et l'un des nôtres, un yézidi, réfugié dans la montagne, nous guidait par téléphone. Nous avons marché pendant 5 heures, dans le froid, pieds nus, dans la boue, au milieu des chiens errants. On avait peur d'être arrêtés. Nos pieds étaient en sang. Au bout de 5 heures, nous sommes enfin arrivés dans la montagne où se cachaient d'autres yézidis.
Pourquoi vous avez souhaité témoigner aujourd'hui ?
Je témoigne pour que la communauté internationale fasse quelque chose pour aider les milliers de yézidis qui sont toujours captifs. Notre peuple doit être placé sous protection internationale.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Géraldine Allou. Jinan, qui va repartir dans quelques jours au Kurdistan irakien, dans le camp de réfugiés où se trouve sa famille. Le titre de son livre, Esclave de Daesh, est publié chez Fayard.
Inter 13.
En France, nouvelle polémique à propos des menus dans les cantines scolaires. Cette fois, c'est à Chilly-Mazarin dans l'Essonne, une ville dont le maire, Les Républicains, a décidé de ne plus offrir de repas de substitution à ceux qui ne mangent pas de porc au nom de la laïcité. Les parents l'ont appris à la rentrée. Ce matin, certains sont allés distribuer des tracts pour protester. Reportage Cyril Graziani.
Pas une signature ne manque. Tous les parents de l'école du château ont protesté ce matin et signé la pétition. Axelle Ponce, la présidente d'une association de parents d'élèves.
À la rentrée, les parents ont appris avec grande surprise que le repas de substitution avait été enlevé, sans communication, sans concertation, sans discussion en commission des menus en fin d'année dernière.
Même la directrice de l'école, Valérie Bouge, n'a pas été mise au courant.
D'habitude, sur les papiers pour les régimes alimentaires, habituellement, il y avait à cocher sans porc. Et là, il n'y avait plus rien.
Voilà, on est seulement 3 communes en France.
D'accord.
Et okay. Du coup, nous, on demande à ce qu'ils les réintègrent, en fait.
Bonjour, monsieur, vous signez sans hésiter.
Sans hésiter, ouais. Ça ne me paraît pas normal, tout simplement.
Amine, lui, a un fils, Marwan, 9 ans, qui ne mange pas de porc. Il est très en colère.
Dorénavant, la viande et les légumes vont être séparés. Mais il y a un jour où ils vont manger du gratin de jambon. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner à manger à mon fils. Là, je paye plus de 5 euros pour une entrée et un dessert.
Pour l'ancienne maire de Chilly, Rafika Rezgi, cette affaire va même plus loin.
Au-delà du simple fait de supprimer le repas sans porc, il y a une vraie conception du vivre ensemble qui est menacée. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter à Chilly-Mazarin.
Le maire Jean-Paul Benetou, en poste depuis un an, lui justifie son choix et ne compte pas revenir en arrière.
Les enfants ne vont pas mourir de faim, c'est ça que je suis en train de dire. Tout le monde va manger. Donc si 3 fois par mois, les enfants n'auront pas de viande dans leur assiette, je veux dire, ça ne va pas les empêcher de vivre.
Pour se justifier, il invoque le sacro-saint principe de laïcité. Aujourd'hui, vendredi, les enfants ont mangé du poisson. Chilly Mazarin, Cyril Graziani, France Inter.
À nouveau, une route coupée par des gens du voyage. Cette fois, ça s'est passé à Montsolémine, en Saône-et-Loire, hier soir. Comme sur l'A1, il y a quelques jours, les manifestants ont bloqué la route Centre-Europe-Atlantique en brûlant des pneus et des palettes. Ils avaient des exigences à propos des obsèques d'un des leurs tué par balle. Ils ont visiblement obtenu la libération de 2 autres personnes de la communauté qui souhaitaient assister aux obsèques. Au bout de 3 heures, la circulation a été rétablie. Nouvel avis de turbulence à Air France. La compagnie annonce que si un accord n'est pas rapidement trouvé sur le plan social avec les syndicats, il y aura une réduction de la voilure, Bruce de Galzin, et peut-être même des départs contraints.
Oui, selon plusieurs syndicats, la direction d'Air France menace de supprimer 10% de son offre long courrier si les organisations, le syndicat national des pilotes en tête, ne reviennent pas à la table des négociations d'ici la fin du mois. Aujourd'hui, 107 avions effectuent des vols long courrier. D'ici 2017, il pourrait y en avoir 10 de moins. Certains syndicats évoquent même le chiffre de 94 avions long courrier seulement. Alors cela ne veut pas dire que 10% des lignes seraient supprimées. C'est la fréquence des vols qui serait revue à la baisse. Et bien entendu, l'emploi serait alors touché. 3 à 4 000 emplois, dit-on. L'objectif pour Air France, c'est d'arriver à 80% de lignes rentables. Il n'y en a que la moitié aujourd'hui. Mais pour atteindre cet objectif, il y a aussi une manière plus douce. Que les personnels navigants acceptent d'être plus productifs. Car si l'on compare le temps de travail des pilotes, notamment, il serait quasi à 20% moins important que chez tous les concurrents européens d'Air France. Si la moyenne était rétablie, Air France, nous dit-on, n'aurait pas besoin de supprimer de vols long courrier et donc d'emplois.
Merci Bruce de Galzin. Un nouveau rendez-vous dans ce journal, vous le savez, un retour sur info, histoire de revenir sur un événement qui a fait la une et qui ensuite a disparu des écrans radars de l'actualité. Aujourd'hui, retour à Gemnos, près de Marseille, où les anciens salariés de Fralib ont monté une SCOP pour poursuivre leur activité qui était menacée de délocalisation par la multinationale Unilever. La SCOP T produit elle aussi des sachets de thé commercialisés, notamment sous la marque 1336, comme le nombre de jours passés à occuper l'usine. Le tout avec une organisation du travail forcément assez différente, puisqu'il s'agit d'une SCOP. Retour chez les ex-Fralib, c'est un reportage d'Olivier Martoc.
Depuis une semaine, les machines tournent à un rythme soutenu. 250 000 paquets de tisane sous les marques Scopti et 1336 sont d'ores et déjà prêts à être livrés. Thomas Blanchard, le directeur commercial, a été spécialement recruté pour négocier avec les grandes surfaces.
Il y a un prix plancher au-delà duquel on ne va pas. Nous, on offre une vraie marque avec une vraie histoire quant à l'éthique et au positionnement social des gammes de produits. Et je pense que les clients y seront sensibles. Et la grande distribution, en général, ne s'y trompe pas.
Voilà pour les négociations avec les distributeurs. Côté fournisseur, Olivier Leberquier, l'irréductible délégué syndical CGT, désormais directeur général délégué, entend instaurer de nouvelles relations avec les producteurs de plantes français.
Toutes les plantes aromatiques qui peuvent pousser dans nos régions, c'est complètement stupide d'aller chercher à l'autre bout du monde. On veut vraiment avoir des relations de partenariat avec eux, on ne veut pas avoir des relations de client-fournisseur. Dites-nous le prix que vous considérez être le bon et c'est celui-là qu'on vous l'achètera. Donc ça détonne dans le marché, hein. L'idée, c'est de travailler sur l'ensemble de la filière et au bout du compte, l'ensemble de la recette, on la répartit équitablement sur l'ensemble de la filière. Bon, aujourd'hui, ils ne sont pas encore prêts à entendre ce discours-là et aller vers ça, mais nous, on espère d'ici quelques années les convaincre que c'est la meilleure méthode pour faire vraiment fixer le bon prix.
Il y a enfin la partie ressources humaines, c'est Gérard Cordola, ancien président du CE et désormais président de Scopti qui s'en charge, avec là encore une vision décalée par rapport à ce qui se fait dans les entreprises classiques.
On a connu une multinationale avec des personnes qui vous surveillaient pour produire. Nous, on n'a pas besoin d'être derrière les salariés. On sait ce qu'on a à faire. On sait qu'il faut sortir la production. On est tous responsables de cette production et on sait que c'est pour notre avenir. Et on essaye justement d'avoir une hiérarchie à plat et non plus pyramidale comme on avait avant parce qu'on est tous concernés et on doit tous être responsables au même niveau.
Scopti, c'est le monde des bisounours, raillent certains patrons marseillais. Peut-être, mais pour ceux qui suivent ce dossier depuis l'annonce de la fermeture de l'usine, force est de constater que pour l'instant, cette option sur laquelle personne ne misait est en train de devenir réalité. Gemnos, Olivier Martoc, France Inter.
Effectivement, pour l'instant, chez les ex-Fralib, tout va bien. Le patron de la CGT est même venu les saluer la semaine dernière. Pour d'autres, la reprise de l'entreprise a été plus compliquée. On l'a vu notamment avec les ex-Cifrance, peut-être pour des raisons un petit peu différentes. Au-delà de ces deux cas, en tout cas, qui ont fait la une, on s'intéresse aujourd'hui à ces SCOP, qu'on appelait autrefois Société Coopérative Ouvrière de Production et qu'on appelle maintenant Société Coopérative Participative. Alors, comment les définir, Maxime Debs?
Alors, question déjà, comment elles fonctionnent? C'est simple, dans une SCOP, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51% du capital de leur entreprise. Alors, en Assemblée Générale, comment ça se passe? Eh bien, les salariés associés décident ensemble des orientations à prendre. Ils élisent leurs dirigeants. Le principe est clair lors de ces AG. Une personne égale une voix, et ce, quelle que soit la part de capital détenu. Le processus, le système de fonctionnement se veut donc des plus démocratiques. Alors, il y a aujourd'hui environ 2200 SCOP en France, sur 3 millions d'entreprises en tout. Généralement, ça se passe plutôt bien. Le zoo d'Amnéville est une SCOP, ça marche. Chaque déjeuner devenu le groupe UP est organisé en SCOP également. Là aussi, ça fonctionne depuis plus de 50 ans. Le problème, c'est quand le politique s'en mêle. Vous parliez de Cifrance, là, ça a été donc compliqué. Et puis, autre limite de ces SCOP, c'est lorsqu'il faut prendre des décisions drastiques. Quand ça va mal et qu'il faut tailler dans les effectifs, là, les salariés ont bien souvent du mal à trancher collectivement.
Effectivement, là, ça ne doit pas être facile. Les SCOP, modèle d'avenir ou pas? On pose la question à Patricia L'Excellent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée générale de la Confédération Générale des SCOP. Alors, Maxime Debs le disait, 2200 SCOP environ.
2280 maintenant aujourd'hui, qui représentent 51 000 salariés. Tout à fait.
C'est pas marginal.
C'est encore très peu.
C'est pas grand-chose, mais enfin, dans la situation actuelle, ça interpelle forcément. Combien d'emplois créés ces 10 dernières années? 12 000 environ, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Il y a un taux de croissance à peu près sur les 4 dernières années qui est de 15% à la fois en nombre d'entreprises et également en termes d'emplois créés.
Alors, on a parlé des SCOP dans les cas de reprise d'entreprise, mais ça représente que 10% des cas, c'est ça?
Tout à fait. On en parle beaucoup, effectivement, quand c'est des reprises d'entreprises en difficulté, mais la majorité des SCOP sont créés, en fait, ce sont au tout début de l'activité de l'entreprise, donc des créations ex nihilo, et de plus en plus également dans le cas de transmission de PME tout à fait rentable à leurs salariés, quand le dirigeant souhaite passer la main après son parcours de direction. Donc il y a plusieurs pistes de création de SCOP et de SIC.
Et dans des secteurs divers et variés?
Dans tous les secteurs, effectivement. Il n'y a pas de secteur privilégié. Aujourd'hui, ça suit le développement classique de l'économie, donc avec beaucoup plus de SCOP de services, alors qu'historiquement, c'était plutôt bâtiment et industrie.
Patricia L'Excellent, l'avantage de la formule, c'est quoi? C'est avant tout le partage du pouvoir et des bénéfices?
Alors, ça, c'est effectivement dans ce qu'on voit dans les statuts. Moi, je crois que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, l'économie est en pleine mutation. Il faut que chacun puisse trouver la meilleure façon de réaliser, de porter son projet. Et dans le cadre des sociétés coopératives et participatives, ça permet soit de créer ou de rejoindre une entreprise dans laquelle les salariés ont toute leur part dans la décision, on l'a vu, dans la répartition du bénéfice, mais c'est également des entreprises qui sont plutôt ancrées sur leur territoire, donc qui s'inscrivent sur la durée, et ça peut être également une occasion de débuter son activité pas forcément tout seul, parce qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais il y a aussi ce qu'on appelle les coopératives d'activité et d'emploi qui permettent de créer une activité dans un cadre tout à fait partagé.
Les inconvénients du système, Maxime Deps l'a un petit peu évoqué, hein, c'est le personnel sont peut-être pas toujours prêts à affronter les difficultés que connaissent les entreprises.
Alors de toute façon, ça ne s'improvise pas. Pour faire une SCOP et une SIC, que ce soit en création ou en reprise, il faut être accompagné. Il faut être formé et c'est bien le rôle du mouvement SCOP qui, au travers notamment des unions régionales qui sont présentes sur les territoires, accompagne les porteurs de projets. Et on a également mis en place plusieurs formations qui permettent de faire évoluer le salarié, parce que le principe c'est aussi que les parcours soient très évolutifs dans une entreprise coopérative et participative, et donc de bien voir quel est le rôle du salarié qui devient associé. Et également de former les futurs dirigeants de SCOP, parce qu'effectivement, là, on arrive à une direction et un management d'entreprise donc qui nécessite un certain nombre de compétences.
Et quand on regarde, au bout du compte, la longévité de ce type d'entreprise, ça ne se passe pas plus mal que pour d'autres?
Non, ça se passe même mieux, puisque la pérennité des SCOP est de 64% à 5 ans, alors qu'elle est plutôt de 50% dans les entreprises classiques. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui permet, un mode d'entreprendre qui permet de s'inscrire sur la durée, en impliquant les uns et les autres différemment.
Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui seraient tentés par l'aventure ?
Eh bien, de bien valider leur projet économique et ensuite, quand vraiment ils souhaitent s'inscrire dans un parcours différent de création, d'implication de l'ensemble des salariés, bien sûr de se faire accompagner par le mouvement SCOP, puisqu'il faut pouvoir accompagner la création de cette entreprise et sa vie tout au long de son développement, sachant que le mouvement SCOP peut également aussi accompagner en matière financière, puisqu'on a des outils financiers qui permettent de faire, je dirais, d'apporter une première brique et d'aider à trouver d'autres financeurs. Donc surtout, de bien se faire accompagner, se former, et ça reste des entreprises comme les autres, donc de valider qu'il y a bien un marché et que les conditions sont réunies pour le développement.
Voilà, faut y aller en étant réaliste, parce que c'est vrai qu'on a encore une image parfois un petit peu bobo de la chose, c'est pas forcément ça.
Non, c'est pas ça, et moi quand on écoute les jeunes créateurs aujourd'hui, les jeunes coopérateurs, ils disent ce sont des idéalistes pragmatiques en fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la volonté d'un projet d'entreprise, un projet de société différent, c'est vraiment une économie plus de la confiance, de la qualité, mais tout en ayant les conditions d'une entreprise, besoin bien sûr d'exigence de fonctionnement d'une entreprise avec son objectif de rentabilité et de développement avec une affectation différente des résultats.
Un mot peut-être des pouvoirs publics, est-ce qu'ils accompagnent l'évolution des scopes? Il y a eu des lois, est-ce qu'on a amélioré les choses pour faciliter la vie de ceux qui ont envie de tenter l'aventure?
Il y a eu effectivement avec la loi ESS un certain nombre de dispositifs nouveaux qui ont été mis en place, à la fois un statut particulier qui est celui de la SCOP d'amorçage, notamment pour les transmissions de PME rentables, parce que c'est pas toujours facile pour les salariés d'avoir tout de suite 51% du capital. Donc la SCOP d'amorçage permet aux salariés de monter progressivement au capital, une fois qu'ils ont réuni les moyens et que le principe de fonctionnement de la SCOP leur permet, mais également de développer les SIC et les CAE.
Merci beaucoup Patricia L'Excellente d'être venue aujourd'hui nous rafraîchir un petit peu la mémoire, nous expliquer exactement comment fonctionnent ces SCOP. On remercie aussi évidemment Olivier Martoc pour ce reportage chez les ex-Fralib. Merci beaucoup et merci à Maxime Deps.
Claire Servageant. Inter 13.
On passe à la page des sports de ce journal avec demain le début à Montpellier de l'Euro de basket, une compétition pour laquelle l'équipe de France n'a pas à rougir. La bande à Parker fait clairement partie des équipes favorites à Montpellier. Xavier Monferrand.
Si la France est favorite de cet Euro chez elle, ces Américains y sont pour quelque chose. La NBA, c'est le Graal des basketteurs et les Français en sont la première légion étrangère avec une dizaine de représentants. Il faut dire que les Américains apprécient le profil des joueurs français, la qualité de leur jeu et surtout de leur formation. Dans le sillage de Tony Parker, l'un des précurseurs arrivé en 2001, on retrouve Boris Diaw, Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert ou encore Geoffrey Lauvergne. 6 joueurs qui font de cette équipe de France la plus américaine de ce championnat d'Europe, devant l'Italie et ses 4 joueurs NBA, ou encore l'Espagne, diminuée par l'absence de plusieurs stars, et qui n'en compte que 2. Et encore côté français, ce serait oublier l'apport de ceux qui ont déjà vécu l'aventure outre-Atlantique par le passé. C'est le cas de Michael Gelabal ou encore de Nando De Colo, une somme de talent et d'expérience qui fait dire que cette équipe de France est probablement la meilleure de tous les temps. Montpellier, Xavier Monferrand, France Inter.
Voilà, et en attendant le début du basket demain, il y a du football ce soir, Portugal-France à Lisbonne. C'est un match amical, mais c'est un
un vrai test pour les Bleus. C'est la fin de ce journal.